Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être encore chaque jour plus nombreux et nombreuses, surtout à rejoindre cette belle communauté des femmes d'aujourd'hui. Alors ma femme d'aujourd'hui accepte de nous raconter sans langue de bois, malgré la réussite qu'elle vit aujourd'hui, les étapes, parfois douloureuses, par lesquelles elle est passée, mais qui n'ont fait que la construire et qui font partie d'elle et qu'elle veut transmettre.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lella Majda Brabich, Sbah Nour, Mahbabik, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Chbark Lella.
Alhamdulillah, merci beaucoup Yasmine pour l'invitation.
Alors Lella Majda, on va parler avec elle, l'éducation, l'apprentissage, on va parler avec aussi elle, la femme que vous êtes. Yek ?
D'accord.
L'éducation et l'apprentissage, Wardine, une place très importante pour votre vie professionnelle. Et personnelle aussi, je pense.
Oui, oui, en effet, parce que je vais vous raconter l'histoire, comment j'ai atterri dans ce domaine.
À la Rasoulaine.
Oui, donc vous avez constaté qu'effectivement, c'est une passion. C'est moi, tout simplement.
Alors, passionnée d'éducation.
Exact.
Passionnée. Chnoukha, comment ça se fait, Majda ?
Alors, ça, c'est une question, je dirais que pour la vérité, pour y répondre, ça prendra énormément de temps, mais je vais vous dire. En fait, moi, j'ai constaté cela dans mon entourage, d'accord ? Donc, parce que je voyais qu'effectivement, l'éducation n'a rien à voir avec les moyens matériels et financiers.
Okay, non, absolument.
Donc, Donc, je voyais qu'effectivement, l'éducation, elle capitalise beaucoup plus et mise sur les valeurs, sur l'humain, sur un être humain, créer un être humain équilibré, justement, avec des valeurs qui l'animent, avec des principes qu'il respecte, voilà, durant toute sa vie, qu'il soit enfant ou qu'il soit adulte. Et du coup, je me disais, comment je pourrais, justement, transmettre ça à mes enfants et comment aussi je peux, parce que quand je dis éduquer, alors, chaque jour, on est en train justement d'éduquer soit nos enfants, soit notre entourage, soit, je dirais, éduquer soi-même. Ça, c'est aussi important. Et ça, j'ai vécu cette expérience de m'éduquer encore une fois. Donc, et voilà, donc, j'ai commencé mes recherches. Et quand je dis mes recherches, c'est-à-dire c'est des lectures que je faisais en étant petite, en posant des questions. Comment, par exemple, je demandais à maman comment justement me retenir, ne pas par exemple crier sur quelqu'un, comment ne pas être en colère, comment par exemple aider mon pays à se développer.
Et elle était comme ça, et elle est comme ça comme personne ?
Alors maman, elle était comme ça comme personne et... maman, elle était un peu différente de mon père. Mon père, il était quelqu'un qui, dans son système éducatif, il était beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus dur, beaucoup plus...
tu vois, traditionnel.
Traditionnel, exactement, très conservateur. Et pour lui, la femme, donc, c'est le respect, il ne faut pas qu'elle s'affiche, etc. Maman, elle m'a encouragée, justement, à évoluer, à me réaliser. Sauf que c'était quelqu'un, encore une fois, qui avait peur de notre environnement. Parce que, je l'avoue, là, j'ai grandi dans un environnement... dans un milieu familial qui m'a toujours dit qu'on vit dans un environnement hostile.
Masculin.
Masculin et hostile aussi. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai grandi avec une peur à l'intérieur. Donc, pour pouvoir justement la combattre, alors c'était vraiment une autre, alors là, c'est un autre combat.
Hostile par rapport à quoi ? Par rapport à parce que vous êtes une femme ou là, hostile parce que, comme on dit dans notre culture aussi, c'était quoi justement ces valeurs qui étaient, ces notions qui étaient véhiculées ?
En fait, c'était par rapport à tout ça. Aussi par rapport à la femme, parce que justement, on est dans un environnement, dans une société masculine, donc ce sont des hommes qui sont dans les rênes, donc il n'y a pas façon de prendre leur place. Aussi par rapport à cet aspect que vous venez de souligner, comme quoi les gens maquillent bris le cri, il n'y a pas quelqu'un qui pourra t'aider, ne parle pas de tes rêves. Et tu vois, c'est des croyances limitantes. Alors moi, en grandissant, j'ai découvert que ce sont effectivement des croyances limitantes qui m'ont empêché de me réaliser beaucoup plus tôt.
D'accord.
Donc, la vérité.
C'est à quel moment ? C'est à l'université ? C'est la prise de conscience, le changement, la prise de conscience que les choses peuvent être différentes ? C'était à quel moment ?
Alors, merci d'avoir posé cette question parce que justement, j'étais toujours à la recherche de cette prise de conscience. Je me disais, écoute, il y a forcément quelque chose qui ne va pas, Majda, alors essaye de faire les choses autrement. Et c'est effectivement en grandissant au niveau des études supérieures que j'ai découvert que il faut faire les choses autrement. Et c'est à travers les lectures. Moi, je n'ai rien fait à part lire. Mmh. Donc, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel. Je me suis inspirée de la culture américaine notamment. J'ai fait plusieurs formations, du coaching, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de croyances limitantes qui m'ont empêchée de me réaliser.
Oui, qu'il n'est pas l'image de Wahda, un petit encouragement. Tabarakallah, vous avez eu une prise de conscience très jeune quand même, relativement jeune. Parce que, je vais vous dire, beaucoup de personnes ne vont jamais sortir de ces croyances limitantes ou là vont en sortir à un âge tardif qui goul kana yerja biya le waqt chhal hadi ma n'aoudch les mêmes erreurs. Mais alhamdoulillah, vous avez eu la prise de conscience baqa
saghira. Alors, baqa saghira à l'âge de 23 ans, oui.
Oui, 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 saghira, 23 ans, chnou hiya 23 ans. 23 ans, là.
Vous savez, par rapport à ces personnes qui disent qu'il y a des tlawja'a l'waqt l'or, etc., alors je vais vous dire, même à 70 ans, on est capable de modifier ses gènes et son ADN.
Oui, donc, c'est vrai, c'est vrai. Ghera, à 70 ans, elle trafique un peu plus de frustration qu'à 23 ans. Je pense. Donc 23 ans, Blex, 23 ans, ratharrti jeune, men wahed l'qouyoud.
Alors, je dirais que c'était un début, la vérité, parce que, comme on dit, qui n'ont pas d'aïbara, je dis, la yuslihu tabib, mais elle se daoul atar. Donc, après avoir, accumulé l'ensemble des croyances limitantes, les parents, l'environnement, la société, l'école. Donc, à l'âge de 23 ans, j'ai commencé le processus. Mm. Et c'était en grandissant, justement, que je me suis libérée au fur et à mesure. Je peux vous dire que la libération était à la naissance de mes enfants, notamment ma fille, donc l'aînée.
L'aînée,
exactement. Aujourd'hui, elle a 6 ans.
Tabarakallah.
Je peux vous dire que c'était ça mon objectif. Je ne voulais pas lui transmettre mes blessures, mes croyances limitantes, parce que moi, en tant que maman, à travers mon éducation, il y a des choses que forcément je vais les faire inconsciemment.
Ouais, ouais.
Et donc, voilà.
Kulna, justement, Kulna.
C'est ça. Et chose, je suis continue à la prise de conscience. Je pense que le processus t'essaie. Ce qui est challengeant, c'est justement quand on n'a pas cette prise de conscience, on ne sait pas par où commencer, comment
exact.
Procéder. Et des fois, on fait mal les choses.
Ouais.
Donc, toutes les choses, les extrémités, dialogue. Mais quand il y a une prise de conscience, il y a cette envie de chercher comment faire les choses autrement, comment évoluer. Et surtout, j'insiste sur le pouvoir de l'acceptation. J'accepte que j'ai des blessures. Il y a des choses que je fais mal et aujourd'hui, j'essaie de faire les choses autrement. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Et alhamdoulilah, donc on a tous cette possibilité. Il ne faut pas, faut rien regretter.
Exactement. Alors justement, vos enfants qui peuvent justement profiter de ce changement, mais vous accompagnez aussi beaucoup de jeunes, la Majda.
Et c'est ça, et c'était ça le challenge. Pourquoi je vais vous raconter comment j'ai atterri dans l'enseignement. Moi, j'ai fait toute une carrière en finance. J'ai un doctorat en sciences économiques et gestion. J'ai commencé ma carrière dans une grande banque de la place en tant que chargée reporting comptable et financier. Et encore une fois, je me disais, écoute, Majda, ça, c'est pas toi. C'est pas vraiment ce que tu voulais. Et je peux vous dire qu'à l'instant même où je me suis dit ça, je ne savais pas ce que je voulais exactement. Et puis moi, je suis quelqu'un qui reste très attentif aux signes. Donc je suis très attentive aux signes qui sont autour de moi. Et puis il y a un concours de l'enseignement qui s'est lancé, donc qui a été lancé par le ministère. Et je me suis dit, tiens, et si tu tentes le coup ? Et j'ai tenté le coup, et effectivement, j'étais retenue. Et j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement.
Mmh.
Alors, j'ai accompagné des jeunes, c'est des lycéens. Et vous savez, les adolescents, donc on en voit de toutes les couleurs. Et si on n'est pas, si on n'a pas vraiment les outils qu'il faut, là vraiment ça va être vraiment challengeant d'assurer et d'exercer son métier dans de bonnes conditions. Et voilà. Donc encore une fois, grâce à ma prise de conscience et grâce à une magnifique formation que j'ai faite autour de l'éducation positive dans les classes et les établissements, j'ai pu, alhamdoulilah, accompagner ces jeunes pour justement à ce qu'ils eux aussi se libèrent de leurs blessures, parce que je voyais que, subhanallah, cette génération a une façon de penser, une manière de penser qui est vraiment différente de la nôtre. Donc, on n'a pas une grande différence d'âge, mais on voit qu'effectivement, c'est un moment donc des croyances par rapport à la jeunesse, par rapport aux adultes, par rapport à leur pays. Et donc, moi, je me voyais que la mission, elle leur montrait que, voilà, encore une fois, le monde n'est pas hostile, et que mazal kayn khair, et qu'il faut compter sur soi-même, et qu'il faut juste travailler et avoir la volonté d'aller de l'avant, et surtout avoir un objectif dans la vie. Mm. C'est malheureux de voir des jeunes qui, si tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez devenir, par exemple, dans 2-3 ans, ou quel est votre objectif d'ici la fin de l'année, ils n'ont aucune visibilité par rapport à ça.
Alors, justement, vous, à leur âge, est-ce que vous aviez cette visibilité?
Et si je vous disais oui?
Je vous dirais bravo.
Alors, je vais vous dire. J'étais aidée, à vrai dire, par mon père, je peux vous dire, qui m'a impactée, dans le sens où il me ramenait des livres, il me ramenait, par exemple, comment on appelle ça, j'ai quand même oublié, de toutes les façons, l'anatomie du corps humain, et à cet âge, quand je dis à cet âge, moi, à l'époque, j'avais 15 ans, 16 ans, je voulais devenir médecin. Alors, c'était ça le rêve. Je voulais devenir médecin neurologue. Donc, soit neurologue, soit cardiologue.
Ouais.
Donc, au niveau du collège, je cherchais une spécialité pour faire ça. Et puis, il y a une dame qui me dit, ah, tiens, oublie la médecine, choisis l'économie. Je lui ai dit, c'est pas possible. Elle m'a dit, choisis l'économie. Alors, c'est quelque chose lié qui a de l'avenir. Ok, j'ai fait l'économie, j'ai réussi, je suis quelqu'un qui fleurit là où il est planté, donc alhamdoulilah, j'ai bien réussi mes études, mais il y avait toujours le rêve, j'essayais de l'exercer, de le faire autrement, de concrétiser autrement. Et voilà, quand j'ai fait l'enseignement, encore à travers mes lectures, pourquoi j'insiste sur la lecture, je tombe sur les neurosciences cognitives. Et je ne peux pas te décrire, Yasmine, ma joie. Je me suis dit, tiens, alors là, Najda, tu as la possibilité de vivre ta passion, mais en même temps de concrétiser ton rêve en devenant neurologue. Donc, c'est vrai que Maradish Tchoufi demain, comme on dit,
ouais.
Mais au moins, tu vas découvrir effectivement le cerveau humain, son mode de fonctionnement, mais dans le cadre l'intime stagiaire, l'IWA, l'enseignement. Et c'était la révélation, Yasmine. Mm. Je peux te dire que je ne peux pas te décrire ma joie, parce qu'effectivement, je suis heureuse parce qu'aujourd'hui, j'en sais, et c'est ma passion, mais en même temps, je vis mon rêve parce que je peux vous décrire comment le cerveau humain il fonctionne, partie par partie, lobe par lobe, ses composantes, etc. Il faut savoir que quand vous achetez une machine, vous l'utilisez, alors vous lisez le mode d'emploi pour ne pas la saboter. D'accord.
Oui.
Alors, même chose pour notre cerveau. C'est une machine et c'est la plus puissante des machines qui existent sur Terre. Donc aujourd'hui, avec toutes les créations que nous voyons, l'intelligence artificielle, etc., notre cerveau, il est beaucoup plus puissant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, dit que la puissance de notre cerveau, la paresse, elle existe. Alors, comment ça? La paresse, elle existe parce qu'il veut économiser son énergie. Donc, nous, notre objectif, et surtout, moi, j'insiste maintenant sur le côté apprentissage, il faut créer des circuits rapides qui vont économiser la perte d'énergie notre cerveau, mais au moment de l'apprentissage.
Alors justement, c'est ce qui vous a permis, Majda, d'être classée parmi dans le top 10 du championnat du monde de lecture rapide et être ainsi la première marocaine et africaine dans cette discipline?
Oui.
C'est
je
ça.
Vais raconter cette histoire.
Ouais.
Je vais raconter cette histoire. Moi, quand j'ai découvert la lecture rapide, c'était en 2017, en préparant ma thèse. Encore une fois, en misant sur cet aspect état d'esprit, en préparant ma thèse, j'avais déjà Lina qui était née. J'étais un mari, un foyer, donc beaucoup de responsabilités. J'avais un mari, un foyer et beaucoup de responsabilités en parallèle. Donc, il fallait que je trouve un moyen qui va me permettre de réaliser mon rêve, qui est d'avoir mon doctorat. Qui était d'avoir mon doctorat, et parallèlement, assurer un équilibre pro et perso. Ce que j'ai fait, et elle dit, j'insiste, elle est là, elle dit, qu'est-ce que vous cherchez, vous cherchez aussi. Donc, j'ai tapé sur Internet, comment lire rapidement et tout mémoriser. Et je tombe sur un article qui me décrit cette technique de lecture rapide avec un interview qui était fait avec Warren Buffett et Bill Gates. Et qui expliquait que c'est une technique décrite par le terme super pouvoir. Je me disais, si c'est un super pouvoir, bah, j'aimerais bien l'avoir. J'ai commencé à chercher, et à l'époque, quand je vous dis 2017, donc il n'y avait pas de formateur, au Maroc c'était méconnu, et c'était en mode autodidacte que j'ai appris ça. Alors, en 2000...
Vous ne vous êtes pas dit, c'est juste du marketing sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai tout ça?
Alors, vous savez pourquoi? Parce qu'avec la casquette de chercheuse à l'époque, donc doctorat, j'ai cherché des études scientifiques autour de ça.
Voilà, c'est ça.
Et j'ai constaté qu'effectivement...
Il y avait quelque chose. Ouais.
Il y avait quelque chose. Alors, la lecture rapide, aujourd'hui scientifiquement prouvée, ça développe l'esprit critique, l'esprit de synthèse. Et d'autant plus, ce qui m'a encouragée, j'ai constaté que c'était une technique qui était pratiquée par Imam Shafi'i, Imam Bukhari. Et on sait tous que Imam Shafi'i avait une mémoire des éléphant. Pour lui, il suffisait de regarder une page, il se rappelait de son détail. Et c'est puissant. Donc, il pratiquait ce qu'on appelle la photolecture. C'est même pas la lecture rapide. Donc, pour lui, la lecture rapide, c'est rien. Un lecteur rapide, il lit 1000 mots par minute. Alors, quelqu'un qui pratique la photolecture, il peut mémoriser et capter une minute plus de 5000 mots. D'accord. Et je trouve, subhanallah, la puissance, encore une fois, du cerveau humain. Donc, encore une fois, en misant sur cet aspect bonne programmation, je me disais, écoute, Majda, c'est ton challenge. Essaye de voir comment mettre ça en place, même au Maroc. Donc, Hadi, c'était une programmation. Alors, parallèlement, toujours dans le désir d'évoluer et d'améliorer mes pratiques, mon métier, j'ai fait une formation sur, justement, comment améliorer et, ou là, plutôt, mettre en place de bonnes techniques d'apprentissage. Alors, la dame qui avait fait la formation... Elle m'avait plutôt parlé des championnats du monde de sport de cerveau. Je lui ai dit, écoute, est-ce que ça existe? Elle m'a dit, oui, ça existe. Est-ce que tu veux y participer? Je lui ai dit, écoute, inscris-moi, je veux y participer. Alors, il y avait plusieurs Marocains, il y avait des Français qui vivaient au Maroc. Et voilà, donc je me suis inscrite. J'ai fait un entraînement de 2-3 semaines et j'ai participé aux championnats. Donc, juste après, elle me dit, écoute, mais je suis classée 9e. Je lui ai dit, 9e au Maroc? Elle m'a dit, non. 9e mondial, première en Afrique et en Moyen-Orient. Et je peux vous dire, Yasmine, que Anna, quand elle m'a annoncé les résultats, que là, c'est impossible. Pour la première fois, j'arrive pas vraiment à croire la maladie. Mais au cas que là, c'est impossible. C'était pas vraiment prévu. Elle m'a dit, si, Majda. Et donc, aujourd'hui, tu es la première Marocaine à avoir participé dans ces championnats. Et alhamdoulilah, you made it. Et c'était le début d'une autre belle aventure. Et alhamdoulilah, ahna machi fiha, Allah yeskhar.
Alors, une question, Majda. Aujourd'hui, quelle relation avec les parents?
Alors, alhamdoulilah, écoute, beaucoup de reconnaissance. Au début, et je l'avoue, hein, c'était un petit peu, c'est-à-dire que la prise de conscience, c'était beaucoup plus, comment dirais-je, avec le blâme.
Oui.
Là, je vous avais fait ceci, pourquoi vous n'avez pas fait cela? Mais après, encore une fois, en découvrant que l'acceptation, elle est puissante, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ça ce que je devais faire, mais c'était plutôt de le remplacer par Wahid Klimat. Ils faisaient de leur mieux.
Mieux, exactement.
Voilà. Et alhamdoulilah, donc voilà, aujourd'hui, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Il ne faut pas chercher à les...
Même ses propres parents, il faut les accepter comme ils sont.
Exactement. Il faut les accepter, même nos enfants. Et moi, la thérapeute, il me disait, écoute, Majda, quand tu regardes quelqu'un qui fait quelque chose qui ne va pas, avant de réagir, avant de dire quoi que ce soit, dis-toi qu'il a raison. Cette personne, elle a raison. Elle a raison selon quoi? Selon son système de croyance, selon son filtre cognitif, etc. Donc, si tu veux lui dire qu'elle n'a pas raison et qu'elle a tort, donc là, tu vas rentrer le tour de l'homme, il m'a dit, et du coup, ça ne mène à rien. Donc, du coup, accepte la personne, dis-toi qu'elle a raison, et voilà. Donc, c'est le secret.
C'est le secret, exactement, l'acceptation des autres. Laila Majda, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui, en toute transparence et sans langue de bois et en toute sérénité et transparence. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient à la tête et qui revient. Merci beaucoup, Laila.
Merci beaucoup, Yasmine. Merci, l'HTK. Et puis voilà, c'était effectivement moi, un petit partage de ma vie et de mon enfance. Et voilà.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.